Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entre gars, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Pour Nina, il était évident qu'elle aurait des enfants quand elle serait plus grande. Puis en grandissant, elle a compris que ce choix pouvait être fortement impulsé par la société. Nina tombe enceinte, mais ce n'est pas le bon moment, alors elle avorte. Plus tard, elle quitte son boulot pour se mettre à son compte, pile au moment où elle découvre qu'elle est enceinte. Nina n'aime pas être enceinte, elle le sait depuis le premier mois. Ce qu'elle veut, elle, c'est s'investir dans son nouveau business, comme c'était prévu. C'est d'ailleurs le futur papa qui ira seul à un cours de préparation à la naissance, parce qu'après tout, pourquoi les hommes ne pourraient-ils pas prendre les infos pendant que les femmes travaillent ? Pour son accouchement, elle a un déclenchement et est séparée de son bébé, ce qui va beaucoup la déstabiliser. L'amour pour son enfant est là, mais le bonheur qu'on lui a vendu sur le fait de devenir mère n'y est pas. Les nuits sont courtes, elle angoisse de cette grande responsabilité qu'est celle de s'occuper de son bébé, puis Nina finit par exprimer son mal-être à son conjoint et à sa maman. Elle comprend qu'il lui faut créer son village pour qu'elle apprivoise cette maternité. Dans cet épisode, on parle d'idéaliser le fait d'être mère, de ne pas trouver de plaisir à jouer au cube avec son bébé et de normaliser le mal-être des mères, car non, tout ne passe pas. Bonne écoute!
Bonjour Nina!
Hello, trop contente d'être là.
Moi aussi, merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Je vais te laisser te présenter, dire un petit peu qui tu es, combien tu as d'enfants, quel âge ils ont.
Je m'appelle Nina Ramen.
Ouais.
Et j'ai un enfant qui s'appelle Léon. Il a 10 mois. En parallèle de ça, moi je suis entrepreneuse.
Ouais.
Et mon métier c'est d'enseigner l'écriture de vente, l'écriture business. Donc globalement, j'aide les femmes à prendre la parole pour leur business, donc à être identifiées comme les expertes de leur métier. Donc l'idée, c'est d'être reconnue pour notre expertise et pas pour toute autre chose.
Ouais.
voilà, quand on parle de maquillage et de beauté, on pense à des femmes. Par contre, quand on pense à expert,
ouais,
on voit plutôt un mec grisonnant. Et puis,
ouais.
Et puis voilà. Quoi. Donc l'idée, c'est d'arriver à développer, en fait, à aider des femmes à prendre leur place, prendre leur parole sur leur expertise.
Ok, d'accord. On y reviendra dans l'épisode. Alors, on va repartir en arrière. Toi, plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité ? Est-ce que tu as toujours pensé devenir maman un jour, ou c'était pas du tout un sujet qui t'intéressait ?
Alors, il y a eu plusieurs étapes. Mais quand j'étais petite, pour moi, c'était juste évident que quand je serais grande, j'aurais des enfants.
Ouais.
Et je pense qu'avec le temps, j'ai interrogé ce désir de grossesse un petit peu, peut-être pas, enfin, de maternité. Je l'ai un peu interrogé, mais sans pour autant sortir un peu du prisme du monde dans lequel on vit, qui par défaut te dit que tu veux des enfants, quoi. Donc j'ai toujours eu un peu de mal à discerner la part de moi qui voulait vraiment des enfants et la part de moi qui voulait répondre à la société qui voulait de moi que j'ai des enfants, quoi.
Ouais.
Tu vois. C'est un peu comme quand c'est un peu le CDI par défaut, c'est-à-dire que par défaut tu vas te mettre en CDI et si tu veux avoir une autre alternative, il faut vraiment genre le vouloir, le conscientiser et faire l'effort de, quoi.
Mmh. Ok, d'accord. Et alors, à quel moment dans ta vie ce sujet est arrivé ?
La première fois que j'ai avorté.
Okay.
Je pense que l'avortement, en fait, ça t'interroge sur ta maternité, forcément, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Et il y a une femme sur trois qui a avorté dans sa vie.
Mm-hmm.
Donc ça concerne beaucoup plus de femmes que ce qu'on pense.
Bien sûr. T'avais quel âge, toi ?
J'avais. C'était en 2018, donc j'avais 27 ans.
Ouais.
Et en réalité, tu vois, c'est quelque chose qui m'est arrivé, qui m'a interrogée, parce que bah, forcément, c'est, la question, c'est plus tu veux ou tu veux pas des enfants, c'est est-ce que tu veux enlever ce truc qui est en toi, tu vois.
Enfin, ouais.
Tu vois, c'est plus la même question se pose plus de la même manière, donc tu te la poses d'une autre manière. Et, Et bah, moi, j'ai trouvé ma réponse, mais en tout cas, ça a été une première étape, et surtout, ça a été une étape, la première étape, où j'ai commencé à penser plus au féminisme, en fait, parce que j'étais dans un pays, à l'époque, où l'avortement est interdit.
Ok, c'était où ?
C'était à Turks and Caicos, c'est des îles près des Bahamas.
D'accord, ok.
Et je suis en vacances, et j'ai appris que j'étais enceinte, et donc je suis allée voir un médecin là-bas, une gynéco, et qui m'a dit... Bah, abortion is forbidden here, tu vois. L'avortement est interdit ici. Et donc j'ai fait waouh, ok, je m'attendais pas à ça parce que je m'étais pas renseignée dans le pays que j'allais, tu vois, c'était vraiment 2 semaines.
Oui, quand tu pars en vacances, tu.
Je suis pas forcément capée. Et là, je me suis dit waouh, en fait, tu parles d'une réalité de. Ok, en fait, bon, évidemment, l'avortement, voilà, ah, en fait, genre, c'est arrivé, c'est toi maintenant. Et je sais pas si j'avais travaillé là-bas, si j'avais. J'étais née là-bas, enfin voilà, en fait, j'aurais pas eu le choix, quoi.
Ouais.
Et donc je rentre en France parce que mes vacances se terminent et là donc je vais voir des médecins et je me retrouve face à ma gynéco qui me prescrit un médicament qui s'appelle le Cytotec et qui n'a pas d'attestation de mise sur le marché pour l'avortement. Mais pourtant elle me donne ça. En fait c'est t'as 2 comprimés, t'en as un qui prend et qui arrête la division cellulaire, donc qui arrête puis qui arrête entre guillemets la progression. Une deuxième qui fait expulser le matériau que t'as. Et moi, c'est ce deuxième qui s'appelle le Cytotec. Et en fait, j'ai regardé et tout. Mais il y a un moment, c'était sur le marché pour ça, mais ça n'allait plus au moment où ça a été enlevé en 2018, tu vois. Pile à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, la conséquence de ça, je ne sais pas si c'est lié à ça ou pas, je n'ai jamais trouvé de réponse. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé genre 2 mois à avoir mal et à ne pas savoir si c'était normal. Et donc là, j'ai passé énormément de temps sur Internet à regarder, à chercher dans des forums, à chercher des réponses, parce que les médecins, j'arrivais pas trop à leur en parler. Et puis, en fait, c'est ma gynéco qui m'avait donné ça, donc c'est, enfin, tu vois, j'allais pas lui dire qu'on m'avait donné un mauvais médicament. J'ai lu sur Internet parce que je me suis dit, ah, elle va me dire, c'est qui cette relou qui va voir sur Internet. Non, n'allez pas voir sur Internet, ni rien, tu vois. Et donc j'ai trouvé sur Internet plein de réponses et notamment c'est que je suis tombée sur pas mal de forums. Alors les forums, faut pas évidemment c'est pas des médecins mais c'est des femmes qui expriment leurs expériences etc. Et là j'ai fait waouh, en fait c'est marrant mais je suis mieux comprise de ces personnes-là. Alors moi j'ai pas posté, je lisais juste ce qui était dit. Ouais. J'ai dit c'est marrant quand même ces personnes elles comprennent mieux ce que je être ma réalité que le circuit médical dans lequel je suis quoi.
Ouais.
Voilà un petit peu comment je suis arrivée dans la maternité et je pense que ça non maternité pour le coup et puis j'ai avorté une deuxième fois mais pour le coup tu vois ça a été une première interrogation ouais. Ça a été ok en fait il y a un, ce qu'on voit et un ce qui se passe quoi ouais. En coulisses quoi tu vois enfin il y a un peu plusieurs mondes quoi je pense que tu le conscientises enfin moi je l'ai conscientisé à ce moment là quoi et après c'est là où j'ai compris que bah, avoir des cercles de femmes qui s'entraident qui communiquent etc bah c'était tellement puissant que bah finalement aujourd'hui j'en ai fait partie de mon métier mais en tout cas c'est à ce moment là que ça m'est venu quoi
ouais d'accord ok et alors à quel moment tu décides de devenir mère finalement
Très bonne question.
Après ces 2 avortements.
Oui, quand je rencontre mon conjoint qui s'appelle Thibaut. Thibaut, lui a toujours voulu avoir un enfant. C'était un peu son life goal, quoi.
Okay.
Enfin, son objectif, il est trop content. C'était un papa avant l'heure, je pense.
Ouais.
Avant d'être papa, il était papa. Et moi, c'était au contraire un moment où je m'interrogeais plus sur la maternité. Je me suis dit, mais en fait, quelle est la part de ton vrai désir et de la part du désir de la société que tu as intégré? Et je pense que le désir, tu vois, de maternité, il n'est pas 0 ou 1. C'est un spectre. Et moi, je pense qu'à l'époque, ce spectre, j'étais plus à 60% je veux être mère et 40% je veux pas, tu vois. Mmh. Et puis comme c'était la bonne personne, c'était le bon moment, bah, je suis tombée enceinte assez rapidement, en fait. Et on a choisi d'avoir un enfant. Et 9 mois après, bah, Léon est né. Et la particularité, c'est que je me suis dit, ok, c'est très bien, t'es en CDI, tu vas pouvoir avoir un enfant. Sauf que bah, ça se passe pas très bien et, dans ma boîte et donc bah, je quitte ma boîte.
Tu quittes ta boîte quand t'es enceinte ?
Et là je découvre que je suis enceinte. En fait,
ah oui, d'accord.
On négocie une rupture conventionnelle et 2 semaines après, bah, j'apprends que je suis enceinte. Je fais waouh, ok. bon bah. Allons-y.
Ouais, tu avais des aides. Non, tu démissionnais donc.
Non, j'ai eu une rupture conventionnelle.
Ah, ok, d'accord.
Donc c'était cool parce que ça me permettait d'avoir les aires, quoi, le chômage.
Ouais. Donc petit moment de stress et après tu t'es dit, bon, de toute façon, c'est comme ça.
Pas vraiment moment de stress parce que je savais que j'étais pas dans un contexte où. Enfin, je savais que j'allais avoir le chômage, quoi. Donc de toute façon, au pire. Bon. Et puis je me suis dit que c'était un bon moment pour me lancer au final.
Ouais.
Et je me suis dit, bon, j'ai 9 mois pour créer une boîte rentable.
Ah ouais, tu t'es dit ça direct.
Ouais.
Alors comment elle se passe cette grossesse ?
J'ai détesté être enceinte.
C'est vrai.
Je pense le premier mois, j'avais des nausées tout le temps. je me sentais mal. Du coup, je mangeais tout le temps.
Ouais.
Enfin, vraiment, c'était horrible dès le premier mois. Moi, je me rappelle, je buvais des litres de gingembre. Ouais. Ils disaient, bois du gingembre, ça ira mieux. donc non, c'était pas un moment de plaisir, quoi. Et en réalité, tout le reste de la grossesse, j'étais hyper absorbée par ma boîte parce que je lançais ma boîte, quoi. Donc, en fait, j'avais autre chose à faire que de faire des cours de préparation à l'accouchement dans ma tête. Ça me disait, mais écoutez, les gars, moi, j'ai une boîte à faire tourner, là.
Ouais.
Et
parce que t'avais imaginer et penser cette nouvelle société avant de démissionner, quand t'as trouvé ce que tu voulais faire une fois que t'avais quitté cette entreprise et que t'étais enceinte.
En fait, j'imaginais pas. Enfin, quand j'ai quitté ma boîte, j'avais pas d'autres projets. En fait, il y avait pas de plan B. Tu te lances et puis, j'avais pas de projet de redevenir salarié. Enfin, j'avais pas de projet en fait. Mmh. Donc je me suis dit bon bah je pars. J'avais juste que j'avais plus envie d'être là, mais sans pourtant savoir ce que je voulais faire. Et lancer ma boîte était une des options, tu vois.
Ok. Ouais, t'avais quand même ça en tête, mais sans savoir vraiment ce que t'allais lancer.
Exactement. Et donc la grossesse, ouais, c'était vraiment pas ouf. Et après, ouais, cours de préparation à la naissance, donc petite anecdote, cours de préparation à la naissance. Moi, j'avais le choix entre faire un des cours de préparation à la naissance. Bah, il se trouve que la seule date possible qu'il y avait, c'était pile au moment où j'avais une interview super importante qui a après donné une interview que je fais dans les Échos.
Ah ouais.
Tu vois, c'était pas cette interview, mais c'est une interview qui a mené une interview que j'ai faite dans les Échos, donc c'était ultra important.
Ah ouais.
Et je suis pas allée au cours de préparation à la naissance, donc j'ai laissé mon mec aller au cours de préparation à la naissance sans moi.
Très bien.
Pendant que moi, j'étais en train de faire mon interview avec Marie-Éloi, que j'embrasse. Je faisais cette interview, j'étais dans un café en bas de la sage-femme, et je faisais mon cours de pas du tout de préparation à la naissance. Thibaut était au cours tout seul, c'est le seul mec qui était venu tout seul, donc c'est hyper étonnant en fait qu'un mec vienne tout seul au cours de préparation. Et un cours de préparation à la naissance, ça se passe pas du tout comme on s'imagine que ça se passe, c'est-à-dire t'es pas enceinte en train d'essayer de faire des positions tout le temps. Il y a plein d'autres choses que tu vois, il y a l'alimentation de l'enfant, il y a comment tu l'habilles, il y a plein d'autres choses. Oui, la préparation à la naissance, vraiment concrètement à l'accouchement, mais là c'est pas une préparation à l'accouchement, c'est à la naissance globalement. Et donc Thibaut est allé à ce cours de préparation à la naissance sans moi pendant que moi j'étais en rendez-vous business.
Trop bien. Et t'as fait le débrief après?
Je suis arrivée, je me suis pointée, j'avais une heure et demie de retard, enfin il restait encore une heure et demie du cours, mais il m'a fait le débrief. C'était, je me rappelle très bien, c'était sur l'alimentation et sur le fait de comment tu prépares le biberon, etc. Parce que moi, j'ai pas allaité.
Ouais. Et comment lui, il a vécu d'être toute seule à ce cours? Ça s'est bien passé.
Oui, très bien. C'était assez marrant, c'était étonnant. Et puis, je pense qu'il aimait bien cette idée de se dire que c'est un truc nouveau et puis qu'on insuffle ça, quoi. Tu vois, juste un mec qui peut aller tout seul à un cours de la préparation à la naissance et c'est OK.
Ouais, carrément. Je trouve que c'est un message fort. N'hésitez pas à envoyer vos mecs faire. Les cours de préparation à l'accouchement, si vous avez des priorités pour votre business ou,
Au même titre qu'un mec pourrait aller à un cours de préparation, au même titre qu'une femme pourrait aller à un cours de préparation à la naissance toute seule si son mec n'était pas dispo, tu vois, ce qui arrive à plein de femmes.
Beaucoup, ouais.
Il y en a un des deux qui n'est pas dispo, c'est l'autre qui y va, mais là on se dit jamais, tu peux y aller sans moi.
Exactement. Ok, donc là tu poursuis ta grossesse, est-ce que ça s'améliore au fur et à mesure ou t'as des symptômes tout au long?
Bon, c'est horrible, en plus je prends 30 kilos, donc du coup je suis en ballon, je roule plus que je marche, la rétention d'eau, je déteste mon corps.
Ambiance.
Mais bon, en même temps, je suis pas très connectée à mon corps. Moi, je suis juste en train de faire ma boîte, quoi.
Bah oui.
J'ai fait un post LinkedIn, tu vois, qui avait bien marché et qui s'appelait ma tête construit un enfant, mon corps. Ma tête construit une boîte, mon corps construit un enfant, tu vois. C'était vraiment genre, j'avais l'impression d'être.
D'être
coupée en deux, quoi. Ouais. Tu vois, il se passait un truc, mais moi, je conscientisais pas beaucoup ce qui se passait parce que, en fait, j'étais en train de faire autre chose, quoi. Et j'ai pas trop investi ce moment.
Ouais.
En même temps, j'étais OK avec ça, tu vois.
Ouais. Et tu te souviens à quel moment t'as eu l'idée de ta boîte, justement
Il n'y a pas eu d'idée, en fait. Il y a juste, je me suis lancée. J'avais créé une audience déjà, mon métier, c'est de créer une audience, c'est de comment tu tu fédères, comment tu crées une communauté. Et donc, j'avais déjà une communauté qui existait quand j'étais salariée. Et donc, le jour où je me suis lancée, pour le premier mois, j'ai directement fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je suis arrivée, au début, je vendais un produit, c'était un produit de coaching pour les entrepreneuses.
Okay.
Pour aider à lancer leur boîte. Et puis, en fait, ça a tout de suite très bien pris. Et donc, il n'y avait pas d'idée, en fait. Il y a juste ce en quoi je suis bonne, ce que le marché a envie d'avoir, et puis une rencontre entre ces deux mondes-là qui te permet de vendre à ton prix, quoi.
Ok, d'accord. Est-ce que tu avais fait un projet de naissance ?
Ouais, bah, en fait, j'avais fait un projet de naissance, mais alors le projet, c'était... Il n'y a pas de projet.
Ouais.
On fait comme on peut. moi, j'ai accouché sans péridurale, avec de la musique, etc. Genre, moi, c'était pas du tout mon truc, parce que... J'avais dit, bon, écoutez, moi je veux pas trop. À la base, je voulais même pas accoucher par voix basse. Je voulais dire, je vais leur dire, écoutez, les gars, moi c'est césarienne, je suis trop stressée, voix basse et tout, c'est horrible. Enfin, vraiment, genre, c'est quelque chose que je rejetais. Et puis avec le temps, bon, je me suis dit, ok, en parlant autour de moi, tu vois, finalement, je me suis dit, bon, ok, on va tester, genre, d'accoucher par voix basse. Donc, moi, c'était même pas, on va tester d'accoucher sans péridurale, c'était juste, on va tester d'accoucher par voix basse, déjà, c'est un an, tu vois. Et donc je voulais la péridurale, évidemment, je voulais souffrir le moins possible, évidemment, et je voulais que mon bébé aille bien, quoi, ouais. En fait, comme toutes les mères, je pense, mais bon, j'avais pas trop de... Et puis j'avais pas trop de peur par rapport à la césarienne, quoi. J'ai dit, bon, ok, si vous voyez que ça va pas et que ça veut pas, on force pas, quoi. Ouais. Je vais pas me mettre dans tous les sens pour que ça passe. Si on voit que c'est compliqué, et puis c'est tout, quoi.
Ouais, ça t'arrangerait bien.
Ouais, enfin, tu vois, j'aurais... Au final, non, j'avais quand même finalement choisi par voix basse et je voulais le faire par voix basse et je me suis dit, ok, vas-y, on y va, et go, tu vois. Genre, c'était une volonté. Mais je me suis dit, ok, j'ai pas non plus envie de forcer les choses. Et d'ailleurs, là, je parle de volonté, voix basse ou pas voix basse. En fait, c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop... On te laisse pas le choix, mais il y a plein d'autres pays dans lesquels on te donne le choix. Et malheureusement, en France, tu l'as pas trop. Après, moi... Dans l'environnement dans lequel j'ai accouché, j'avais le droit de choisir, entre guillemets. En tout cas, j'avais un peu... Je pouvais demander ce que je voulais un petit peu. Et puis après, on faisait comme on pouvait, tu vois. Mais disons que c'est quand même une option qui était sur la table, quoi. Et voilà, un petit peu, c'était une discussion avec ma gynéco qui était top. Et c'est ce qui nous a permis aussi d'avancer, quoi.
Ouais. Alors, comment ça s'est passé le jour J?
Et donc, le jour J, j'ai eu un accouchement qui était déclenché.
Ok.
Ouais,
parce que
il était assez gros, qu'il avait comme une grosse tête, que moi j'en pouvais plus,
ouais.
Que j'en pouvais plus du tout. Enfin voilà, plein de facteurs comme ça où on s'est dit bon, ok, déclenchement, sauf qu'en fait, déclenchement, ça fait mal déjà,
ouais.
Et une fois sur deux, tu passes en césarienne parce que en fait ça marche pas, quoi. Mmh. Enfin, donc ils m'ont posé ce qu'on appelle des ballonnets qui permettent de maturer le col de l'utérus, et j'ai eu toute la nuit, j'ai eu des contractions, mon col s'est dilaté, j'étais à 2 cm, tu vois, et c'était au bout de toute la nuit. Après, la poche des os s'était fissurée, donc je suis allée j'ai fini par aller en salle de travail où là, on m'a posé la péridurale, sauf que ça avançait très lentement, le travail. Et donc, on était le soir, il était 16h30. Donc, ça faisait depuis la veille, je sais pas, minuit, quoi, que j'y étais.
Okay.
Et j'avais mal. Et la péridurale, elle faisait pas l'effet. Enfin, elle marchait, mais j'ai l'impression qu'il devait toujours redoser, quoi. Et j'avais vraiment mal. Et en fait, je pense que mon corps ne pouvait plus. Au bout d'un moment, j'ai fait de la fièvre.
Ouais.
Donc j'ai eu 38 de fièvre, ce qui est pas très très bien, en fait, d'avoir la fièvre quand quand t'accouches, quoi.
Ouais.
Et le cœur de Léon, en fait, faisait des ralentissements.
Mmh.
Et donc là, la gynéco est venue et puis elle m'a dit, en fait, là on a le choix de la césarienne, vraiment, parce que le cœur de Léon est pas top et tout. Et j'ai dit, ok, go, quoi. De toute façon, je m'étais préparée psychologiquement à faire ça. C'était pas ma voix préférée, parce que en fait, j'y étais, ça faisait 16 heures que j'y étais. Je me suis dit, ok, les gars, maintenant on va au bout, quoi. J'ai fait tout ça pour rien. Et puis, en fait, au final, je me suis dit, bon, là, c'est pour le bien-être de Léon. Et puis, comme je m'étais préparée à faire une césarienne, j'ai pas du tout mal vécu.
Oui.
Et je pense que ça a été le plus beau moment de ma vie. J'ai adoré la césarienne, c'était trop bien.
Mm-hmm.
J'étais posée sur une table, il y avait genre 10 personnes autour de moi qui faisaient tous des. plein de trucs. Et Thibaut était là, mon mec était là, donc il a pu me tenir la main, il m'a fait des blagues, on a rigolé, j'avais même oublié un moment que j'allais rencontrer mon bébé. En fait, ouais. ça devenait tellement irréel ce que je vivais, j'étais déjà dans la survie de moi-même. Et ils m'ont pris, ils m'ont mis sur moi. Et là c'était un moment trop, trop chouette. Ouais. Pendant 30 secondes, et puis après j'ai eu la nausée, donc en fait ils ont récupéré Léon, ils m'ont recousu, et là je suis à leur salle de réveil, et là ça a été un des pires moments de ma vie, parce que j'étais toute seule pendant 2 heures dans une salle froide, j'avais froid, j'avais la nausée, j'étais pas bien, j'ai fait que pleurer, je savais pas comment allait mon bébé, enfin on m'a dit qu'il allait bien, mais j'avais pas mon téléphone, donc je pouvais contacter personne, je pouvais annoncer à personne, enfin vraiment c'était horrible, enfin la césarienne était géniale, mais le moment après c'était mais un enfer, j'aurais adoré qu'on me dise Nina pense à prendre juste son tel ou débrouille-toi pour que quelqu'un te l'emmène, comme ça au moins t'es pas seule, tu peux parler, tu peux échanger. Là j'étais toute seule avec moi-même, la perfusion, comme ça en train d'attendre et pas avoir mon bébé avec moi, et enfin c'était j'ai pleuré quoi, j'ai pleuré pendant 2 heures. Et donc j'ai tellement pleuré que ma infirmière a fini par normalement le père, enfin les visites sont pas autorisées en salle de réveil, mais je pleurais tellement, il y avait pas beaucoup de monde en salle de réveil, que l'infirmière a fini par appeler mon mec pour qu'il vienne quoi, et m'amener mon portable. Et en fait, on aurait voulu que Léon fasse du pot à pot avec Thibaut parce que moi j'ai pas pu. En fait, il était emmené direct en couveuse. Enfin voilà, ça c'était. Ouais, j'ai pas trop. Après, moi je suis descendue en salle dans ma chambre. Mais c'était qu'au bout de 4 heures, 2-3 heures, parce que ça a mis du temps, le temps que les pancardiers arrivent, etc., pour me déplacer. Et franchement, après je l'ai eu sur moi, mais au bout de longtemps quoi. Et ça a été vraiment 3 heures qui étaient vraiment pas agréables.
Pourquoi il était en couveuse ?
Parce qu'il était tout seul en fait, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Thibaut l'a pas pris, on lui a pas proposé, Thibaut il osait pas. Ah oui, et ce qui s'est passé, c'est comme j'avais fait de la fièvre, ils ont mis une perfusion pour mettre des antibios.
Ah d'accord.
Et donc en fait, c'est un geste médical qui est quand même pas dingue de mettre des antibios à un bébé quoi. Et donc du coup, Thibaut est sorti de la salle, je pense, à ce moment-là, et donc il l'a pas retrouvé du moment, il a pas eu le pot à pot. Enfin, c'était vraiment pas du tout vraiment agréable. En plus, j'ai trouvé, il avait un petit bandage parce qu'il avait sa petite perfusion. Enfin, ouais. Franchement, c'était pas un bon moment, ouais. Ce moment-là. Et après, quand ils l'ont mis sur moi, c'était cool, mais j'étais tellement perturbée par tout ce qui s'était passé que j'ai pas réussi à retrouver le moment que j'avais eu quand ils l'ont mis sur moi juste après l'accouchement.
Ouais. Ça s'est fait après, petit à petit.
Alors, je l'ai mis tout de suite. C'était trop bien. Après, on a passé 5 jours à l'hôpital avec Thibaut. Il est bon pour la post-césarienne, c'était cool. Ouais.
Toi, tu t'es remise vite de ta césarienne?
Le lendemain, j'étais debout, ouais. Okay. Par contre, j'ai eu mal pendant longtemps, mais le lendemain, j'étais debout direct. Ouais, franchement, je me suis remise super rapidement. Et Léon. En fait, j'étais avec Thibaut et Léon, et c'était cool. Et après, on est rentrés à la maison tous les trois. Voilà.
Donc là, retour à la maison. Comment tu t'es sentie? Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman?
Là, je me suis tout de suite à l'aise dans mon rôle de maman, ouais. C'était génial.
Donc, tu disais que toi, t'as pas allaité?
Non, j'ai pas allaité. Ouais. Thibaut faisait toutes les nuits, enfin, il faisait beaucoup, vraiment. Et même encore aujourd'hui, il fait beaucoup. On verra peut-être après, mais en tout cas, ouais, je me suis sentie très à l'aise. Donc, ça a duré 2 mois, on était dans notre bulle. Thibaut avait collé ses vacances à son congé de paternité.
Okay.
Et moi, j'avais été pris 2 mois en me disant, bon, on verra. Et donc, là, on a passé 2 mois d'été, on est parti en vacances, etc., avec la famille. Et après, est arrivé le moment. De reprendre le travail.
Et oui, retour à la réalité.
C'est ça.
À la routine et au quotidien.
C'est ça. Et là, franchement, ça a été horrible.
Ouais. Ouais. Toi, t'en étais où dans ton lancement
Moi, j'avais pas vraiment fait pause, en fait. Okay. Je travaillais un petit peu, quoi, mais tranquillement, je me mettais pas de pression. Donc, j'ai jamais totalement arrêté. Mais en fait, au moment de recommencer le boulot, ce qui était dur, c'était que Thibaut était plus dispo, H24. Que moi je n'ai plus disposé en 4, qu'il y avait la nounou à gérer, qu'il y avait des horaires à gérer, qu'il y avait du sommeil à gérer. Et Léon a dit, moi aujourd'hui il ne fait pas encore ses nuits. Ouais. Donc je pense que là on est rentré dans un moment super dur quoi. Vraiment super dur. Tout allait bien, plus ou moins bien jusqu'à maintenant. Mais à partir de 2-3 mois de Léon, c'était horrible. Moi je ne dormais pas et la pression du boulot recommençait progressivement parce que tout s'était arrêté. Donc moi j'avais pas de pression, en plus c'était le mois d'août donc il ne se passait rien. Et en fait tout doucement ça commençait à reprendre. Et en fait. Au bout d'un moment, je me suis retrouvée à avoir des rendez-vous, des journées avec des échéances importantes.
Ouais.
Et la veille, me réveiller plusieurs fois par nuit. Typiquement, là aujourd'hui, on est dans le podcast, donc c'est une journée importante pour moi parce que je rencontre plein de podcasteurs, on fait des interviews comme on fait aujourd'hui, et c'est important d'avoir de l'énergie. Tu vois, c'est notre deuxième journée. Mais la première journée, la veille, Léon n'a pas dormi. Du coup, on l'a mis avec nous. Et donc, il a bougé. Donc, je lui ai pris des coups de Léon toute la nuit. Ouais. Et donc, j'ai pas dormi la nuit. Je me suis retrouvée. J'avais 5 heures d'interview à faire et j'étais explosée. Ouais. Et ça, franchement, tu vois, ça fait partie des moments tellement durs, quoi. Et
ça, tu n'étais pas préparée à ça.
Non, franchement, j'étais pas préparée à ça. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était aussi que je me suis retrouvée à moins en moins apprécier le rôle de mère. Et à tel point que je me disais, mais j'ai fait une bêtise, en fait.
Ouais. Bah justement, je vais lire ce que tu avais écrit sur LinkedIn. Donc, il faut savoir que Nina, elle est très visible donc sur LinkedIn. Et elle a fait un post sur la maternité. C'est ce qui m'a attirée et a fait qu'on se retrouve dans le tourbillon aujourd'hui. Alors, tu as écrit... Le bonheur d'être mère n'est pas universel. Si je devais noter mon plaisir d'être mère sur une échelle, ça ne dépasserait pas la note de 4 sur 10. Je dors 4 heures par nuit depuis 9 mois. Je fais des activités qui m'ennuient, empiler des cubes, faire des marionnettes. Depuis que mon enfant commence à marcher, l'hypervigilance m'épuise et m'empêche de profiter des bons moments. Je trouve du plaisir dans les moments d'affection avec mon enfant, quand on rigole, quand il s'endort dans mes bras, mais ça ne suffit pas. La société a idéalisé le fait d'être mère comme si faire un enfant allait tout résoudre. Comme si c'était une finalité et la seule clé possible pour notre bonheur. J'y ai cru. Mais ma grossesse a été un moment horrible. L'arrivée de mon enfant ne m'a pas donné le plaisir qu'on m'a vendu. Je suis très loin du cliché Instagram. Et je ne suis pas la seule.
C'est vrai.
Et tu veux lever ce tabou, du coup.
Ouais, c'est clair. Ah ouais, non, moi, la maternité, ça me saoule, en fait. J'adore mon enfant, mais je déteste le travail aujourd'hui. Alors ça veut pas dire que c'est un travail qui va être tout le temps le même. Probablement que Léon va grandir et que je vais grandir avec lui et que du coup ce sera intellectuellement plus intéressant pour moi. Et parce que c'est quelque chose qui est important, tu vois, pour moi l'échange intellectuel. Bon, bah, avec un enfant de 10 mois, forcément c'est compliqué, quoi. Donc je table sur le fait que ça change, mais aujourd'hui être mère pour moi c'est pas du tout un plaisir. Je manque de sommeil, donc c'est dur. En plus de ça, les activités que je peux faire avec mon enfant, mais ça m'ennuie. Je me retrouve à empiler des cubes, je me retrouve à faire des marionnettes. Ouais, en fait, je n'aime pas ça. Je n'aime pas cette activité. Et en réalité, ça me rend pas heureuse, en fait, d'être mère aujourd'hui. Enfin, j'aime mon enfant, mais être mère ne me rend pas heureuse aujourd'hui. Je suis en train de faire la paix avec ça. Et je suis en train de traiter ça vraiment. Mais si tu veux, c'est vrai qu'on nous éduque beaucoup en nous disant, ah bah tu verras, être mère c'est incroyable, il y a un avant après. Ah oui, ça c'est sûr qu'il y a un avant après. Mais on nous dit d'un côté, ok, en fait ça va donner du sens à ta vie, quoi. Ouais. Non, on m'a toujours dit d'avoir un enfant ça donne du sens à ta vie. Ouais. Oh, ok, en fait ma vie, oui c'est sûr que ça donne des perspectives, mais ça te rend pas heureuse, quoi. En fait, ça change pas ton bonheur. Si toi t'es pas heureuse, ton enfant te rendra pas heureuse, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'on cache beaucoup. On dit toujours que... On donne toujours... Je dis souvent que les enfants, c'est le produit le mieux marketé du monde.
Ouais.
On te dit, ouais, tu verras, c'est merveilleux. Et après, t'accouches, t'as un enfant, et puis on te dit, ah, ça va, c'est pas trop dur.
Ouais.
Tu vois bien que l'attitude des gens, c'est pas la même. Quand t'as des enfants, quand t'as pas d'enfants, ils essaient de te convertir. C'est une secte, en fait. Vraiment, ne croyez pas ça. Vraiment, ne croyez pas ça, c'est une secte. C'est... Il y a ce côté... je l'ai fait. J'ai mis tellement de temps, tellement d'énergie, tellement d'argent, que je veux que tout le monde fasse pareil que moi. Le monde... fait tout pour te convaincre d'avoir des enfants. Alors qu'en réalité, oui, il y a des choses positives, mais c'est pas, ça peut ne pas être un but dans la vie, quoi.
Ah, bien sûr, oui. Et ça peut ne pas convenir à ça tout peut le monde. Ouais. On parle du regret maternel.
Ouais, j'ai lu deux bouquins là-dessus. Ouais. C'est un truc que j'ai... Mais alors, j'avais lu le postpartum, tu vois, j'avais lu tous les bouquins sur le postpartum, Ilana Wiesman, Anna Roy, et maintenant, je lis le regret maternel. Et donc, je sais pas, il y a 5-6 bouquins bien sur le postpartum, le regret maternel, il n'y en a que deux. Et en fait, c'est cette idée de se dire, peut-être que, tu vois... Ouais, je pense qu'il y a des moments où je me dis que je regrette. Alors là, ça va un peu mieux depuis 2 semaines.
Ouais.
Parce que... mon enfant dort, et donc là le manque de sommeil, ça résout plein de choses.
Ouais, bien sûr.
Pour ceux qui nous écoutent et pour l'enfant dort pas, ça aide quand il dort. Et puis ensuite je me fais aider, c'est à dire que j'ai accepté qu'il fallait de l'aide. Moi je viens avec un mec dont la vision de la parentalité, c'est de passer énormément de temps avec son enfant. C'est, il est une mère qui s'est arrêtée de travailler pour s'occuper de ses enfants. Donc, pour lui, passer du temps avec son enfant, seul à seul, c'est très important. Alors que moi, ces moments-là, c'est ceux avec lesquels j'ai le plus de mal. Ouais. Alors oui, il y a le fait que ça m'ennuie, mais il y a aussi peut-être la responsabilité que ça me donne. Le fait qu'il soit dépendant de moi, ça me fait peur, en fait. Mmh. Vraiment, je pense que ça me submerge. Et donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai une nounou de soir. Donc, j'ai la nounou de la journée pendant que je travaille. Il y a la nounou de soir.
Okay.
Le soir où je m'occupe de Léon. Il y a la nounou qui vient et elle s'occupe de Léon avec moi parce que ça m'angoisse trop d'être seule avec lui, tu vois. Et depuis qu'on fait ça, bah, ça va mieux parce que je me suis rendu compte que oui, il y avait une phase de passe d'ennui, mais peut-être que ça cachait aussi l'angoisse que j'avais de passer du temps seule avec lui. Et autre chose, moi j'ai été éduquée dans un monde où les parents, en fait, c'est pas les seuls, la mère n'est pas le seul relais.
Ouais.
Moi je suis dans une famille indienne, mes enfants ils grandissent au milieu. Il y a mon oncle et ma tante qui m'ont énormément éduquée, il y a ma grand-mère, ouais. Il y avait des nounous, moi j'avais des nounous toute la journée, tu vois. Donc ça c'est une culture très occidentale en fait, d'avoir un couple isolé alors qu'en réalité il faut un village pour élever un enfant. Je pense que c'est des sociétés dans lesquelles on vit et aussi il y a une question de culture. Ouais. Et donc moi j'ai pas du tout grandi avec cette manière en tout cas d'éduquer, et donc pour moi avoir, et Thibaut quand il y a la nounou il me dit non mais moi j'aime pas, ça m'encombre et tout, je dis pas, moi ça me soulage. Mmh. Et donc là on a aussi à comment tu veux éduquer ton enfant et les différences qu'on a, et on se respecte chacun, en tout cas on essaye, mais tu vois ça a été un élément qui m'a soulagée vraiment. Donc il y a eu le fait de le sommeil et accepter de se faire aider, et troisième chose, j'en ai parlé à mes proches, j'en ai parlé à Thibaut, j'en ai parlé à ma mère, donc Thibaut c'est mon mec, et je leur ai dit. Je pense que Thibaut, il l'avait vu avant moi, je leur ai dit, mais là, en fait, ça va pas. Je vais pas bien, en fait, je vais pas bien. C'est horrible, en fait. J'angoisse le matin quand je me réveille parce que je sais que la nounou arrive à 9h et que je vais m'occuper de Léon de 7h à 9h. Je me suis pas bien. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc.
Ça a été dur pour toi de le dire ?
Non, ça a pas été dur de le dire, mais ça a été dur de. Je pense de le conscientiser.
Ouais.
Parce que tu vois, on te dit tout le temps, ouais, c'est dur, c'est normal. En fait, c'est cette espèce de rhétorique de avoir des enfants, c'est dur, et donc tu serres les dents et tu t'avances. Mmh. Alors que non, c'est pas normal en fait, et qu'au moment où j'ai commencé. Alors, j'ai toujours eu un peu ce qu'on appelle des phobies d'impulsion.
Ouais.
Une phobie d'impulsion, c'est. Alors, ça peut arriver quand t'as pas d'enfant, c'est tu t'imagines, pour ceux qui nous écoutent, t'as un flash dans ta tête. Phobie d'impulsion, c'est t'as un flash dans ta tête où tu te vois faire quelque chose. Donc, par exemple, ça peut être sur l'autoroute, tu conduis et tu te vois mettre un énorme coup de volant et te prendre la rambarde. Ouais. Et avec ton enfant, bah, ça peut être tu te vois avoir ton enfant dans les bras et tu te vois le jeter par la fenêtre. Ouais. Alors que ça n'arrive pas, mais c'est en fait des mécanismes de ton cerveau.
Ouais.
Ce qu'on appelle des phobies d'impulsion. Et donc, moi, j'ai pas mal de phobies d'impulsion avec Léon. Et donc. Et donc il y avait ça, mais on te dit c'est normal que ce soit dur d'être mère, c'est normal, c'est dur d'être parent, et tout le monde te dit tellement que c'est normal que t'as l'impression que tu dois vivre avec cette souffrance. Et moi j'ai pas une forte résistance à la souffrance, et donc je fais mais non en fait c'est pas normal, je souffre, venez on trouve une solution pour que ça s'arrête quoi. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se disent faut juste tenir, faut tenir, faut tenir. Et je pense qu'une des réponses, il y a plusieurs réponses. Donc la première, c'est de se faire d'en parler à son entourage. Mmh. Et la deuxième, c'est de se faire aider. Alors après, le problème, c'est que c'est plus ou moins facile pour les gens quand t'as les moyens. Bah,
ouais, bien sûr.
En fait, quand t'as les moyens et quand t'as l'entourage, tu pars déjà avec beaucoup plus de clés. Mmh. Moi, j'ai deux parents qui habitent pas à Paris, mais qui habitent même pas en Europe. Donc tu vois, c'était un peu compliqué. T'as pas beaucoup de relais. Quand t'as la chance d'avoir les moyens, bah, tu peux aussi prendre des nounous, etc. Mais pour les mères qui ont aucun des deux, enfin, les parents qui ont aucun des deux, mais c'est surtout les mères, franchement, c'est super dur, quoi.
Et comment ils l'ont reçu, ton mec, ta maman, quand tu leur as dit, là, moi, c'est pas le grand kiff, quoi.
Bah, mon mec, je pense qu'il le voyait. En fait, il me l'a dit avant moi, tu vas mal, tu fais peut-être une dépression et tout. Et ce qui m'a soulagée dans cette conversation, c'était que je lui ai dit, écoute, arrête d'attendre de moi que je vive la parentalité comme toi. Mmh. Toi, t'as 20 sur 20 en parentalité, t'as 18 sur 20 en parentalité, t'adores passer du temps avec Léon, c'est ton plaisir, t'adores rentrer tôt, t'es jamais en retard, etc. Je lui ai dit, moi, en parentalité, j'ai l'impression d'avoir 2 sur 20. Déjà, à côté de toi, c'est compliqué parce que j'ai l'impression d'être un moins bon parent que toi.
Ouais.
Et ensuite, je lui ai dit, arrête d'attendre de moi que j'ai la même... Arrête d'attendre de moi que j'ai le même plaisir de passer du temps avec Léon. Peut-être que je l'aurai pas, peut-être que je l'aurai jamais, peut-être que je l'aurai, mais en fait c'est dur parce que j'avais double pression. Déjà je me sens mal moi avec, je culpabilise déjà moi, mais alors en plus si toi t'es là en train de dire ouais mais il faut que t'aies du plaisir, il faut que t'apprennes à avoir du plaisir, waouh, en fait non, ça se trouve j'ai pas de plaisir et c'est ok quoi. Ouais. Donc ça c'est vraiment ce qui m'a soulagée, c'est de lui dire ok stop, en fait mettre une barrière là-dessus. Et lui, il le faisait pas du tout méchamment. Hein. Mais il se disait que si j'allais avoir du plaisir à passer du temps avec Léon, bah, les choses se résoudraient. Hein. Donc, il a donné sa réponse à lui, tu vois. Ce que lui, il pensait bien. Et donc, ça nous a énormément aidé d'avoir cette conversation. Et ma mère, elle a bien réagi. Elle a dit, mais tu sais, en fait, ouais, c'est normal, en fait, ce que tu vis. Et elle m'a expliqué. Elle m'a dit, bah, moi, tu vois, quand t'étais petite, il y avait toujours quelqu'un avec moi pour m'aider. Donc, moi aussi, j'ai vécu dans un environnement, peut-être, tu vois, c'est là où ça résonne. C'est que tu t'es aussi la mère, t'as aussi les repères que, dans lesquels t'as grandi. Merci. Et donc, elle m'a expliqué. Donc, du coup, j'ai mieux compris aussi. Pourquoi ben, la relation seule à seule avec Léon, c'était peut-être plus difficile, parce que même moi, c'était une relation peut-être que j'avais pas connue. Enfin, ça m'a donné des clés de lecture de ce que je vivais aujourd'hui. Mmh. Et surtout, elle m'a dit, bah, ok, bah, t'inquiète, on va gérer. Et donc là, elle est beaucoup plus présente. Elle a pris Léon 3 nuits de suite, plusieurs fois. Enfin, tu vois, elle s'est investie.
Parce qu'elle est venue, du coup, à Paris.
Ouais, elle a entendu le SOS. Et du coup, bah, comme une mère, elle est venue bah, ouais, d'y répondre, quoi.
Ouais. Est-ce que justement cette culture indienne, parce que souvent c'est vraiment être chouchouté, la maman ou les tantes elles débarquent et toi t'as plus rien à gérer, les repas, le bébé elles le prennent. Ouais. Est-ce que c'était comme ça aussi avec ta maman? Elle vient quoi.
Quand elle vient. Après c'est toujours un enjeu parce que tu sais il y a Thibaut et donc oui, tu vois c'est quand même lui il est quand même là, c'est comme son enfant. Elle peut pas arriver. Tu vois moi quand j'étais avec ma mère, bah en fait, je vivais avec ma mère, chez ma grand-mère, avec les nounous, et donc tout ça était un peu fusionnel, mélangé. Tu vois, il n'y avait pas vraiment de barrière. Et c'est vrai que là, le fait qu'il y ait Thibaut, bah, c'est pas possible de rentrer en fusion totale comme ça. Mais en tout cas, quand elle prend Léon, elle le prend en charge de A à Z, elle le cherche de A à Z. Pendant 3 jours, on est là, on dort, on fait notre vie, et c'est trop bien, quoi. Ouais. Donc ça, c'est cool. Après, les parents de Thibaut ont aussi pris Léon. Alors avant que je dise que j'aimais, donc c'était. Mais c'était autrement, eux ils sont en région parisienne et ils l'ont pris 3 jours, tu vois. Il a fait 3 jours les parents de Thibaut, 3 jours la mère, donc on a fait une semaine de couple tous les deux, tu vois. Donc c'est... Mais je pense qu'il faut accepter de demander de l'aide, quoi. Ouais. Vraiment, ça c'est. Et puis accepter de dire, ok, là je m'écroule, quoi. Donc vraiment, faites quelque chose, hein. Sinon là c'est compliqué. Et généralement, bah, alors c'est génial quand on a des parents qui sont là, quoi. Mais même l'entourage.
Ouais, bien sûr. Et toi, justement, à quel moment, c'était au bout de combien de temps, en fait, que. T'as réalisé que t'étais pas du tout dans le kiff ou dans ce qu'on t'avait vendu. Léon avait combien de mois?
Bah, au moment du poste, tu vois. Enfin, je pense que j'ai commencé à me sentir pas bien un mois après la reprise. Donc, je pense que Léon avait, je pense, 3-4 mois.
Ouais.
Puis, en fait, ça s'est accentué de plus en plus jusqu'au moment où c'était vraiment dur. Il devait avoir 8-9 mois. Et 9 mois, tu vois, il y a l'angoisse de la séparation et...
Ouais.
Et en fait, je pense que même pour lui, c'était dur. Et donc, il était plus dur avec nous. Et puis aussi, on te dit, ça va s'arranger, les problèmes de sommeil. Et tu vois que ça ne s'arrange pas. Et donc ça, ça a été pas mal d'éléments qui font que je me suis dit, ok, en fait... Je savais que je souffrais, mais le problème, c'est que je me disais que c'est normal.
Enfin, oui, ouais.
Voilà. Ouais, c'est différent. Je savais que c'était dur, mais je me disais, ah, c'est normal, c'est dur, tu vois.
Mais ça veut dire que pendant 9 mois, t'en as parlé à personne, finalement?
J'en parlais avec Thibaut, je lui disais c'est dur, mais lui il est plutôt du genre à dire ouais c'est dur mais il faut, enfin il est un peu comme ouais faut y aller, faut tenir, hein. Allez hop.
Toi tu comprenais peut-être pas forcément déjà ce qui t'arrivait.
Ouais, moi je comprenais pas, je criais pas assez fort je pense, ouais. Je disais ça va pas trop mais je criais pas genre les gars là je vais mal faire quelque chose et je me disais que ça allait s'arranger. Ouais, je me disais que ça allait s'arranger et
est-ce que par exemple comme quand t'avais avorté quelques années en arrière. T'as été sur des forums, est-ce que t'as essayé de voir ce qui se passait un petit peu ailleurs
Ouais, bah ça m'a donné plein de clés pour maintenant. C'est-à-dire que maintenant j'ai compris que bah, y avait une autre manière de sentir de soutenue. Et donc je suis allée totalement chercher sur internet. Et c'est totalement comme ça que je suis tombée sur Regret Maternel, c'est comme ça que je suis tombée sur des épisodes de podcasts que j'ai entendu que je trouvais génial, en fait d'autres paroles tu vois qui étaient comme la mienne et où je me suis dit waouh en fait ok et c'est comme ça que je suis capable aujourd'hui d'exprimer ça et que je suis capable de faire un post LinkedIn avec 200 000 vues de dire ouais ok les gars en fait c'est pas ouf d'être mère.
T'as eu quoi comme réponse d'ailleurs à ce post?
J'en ai eu plein, merci de libérer la parole, moi aussi je ressens ça, beaucoup de gens, donc soit des personnes qui étaient contentes parce que elle disait, bah ok, trop cool, moi aussi je ressens ça avec quelqu'un qui parle de ça. Ouais. Soit j'ai eu des personnes qui ont essayé de me rassurer en me disant, ouais, mais ça va passer, etc. Donc tu vois, qui étaient plutôt dans essayer d'aider. Alors c'est pas du tout ce que je voulais, mais ouais. Voilà, magie des réseaux sociaux. Et j'ai eu des gens qui m'ont dit, ouais, mais tu te rends pas compte, c'est déjà bien d'avoir un enfant, pauvre enfant, il va dire ça plus tard, c'est pas sympa pour lui, etc. Tu vois.
Ouais.
Donc ouais, pas mal de types de réactions différentes, parce que je pense que le monde n'est pas encore totalement prêt à entendre ce type de discours. Et qui est interprétée tout de suite comme étant super violent, etc. Et la parole, elle n'est pas hyper libérée là-dessus. Et je pense que c'est grâce au fait que j'ai vu autour de moi plein de femmes qui m'ont dit « Mais moi, en fait, je suis pas très bien, j'aime pas trop », que j'ai pu, ben, moi, libérer cette parole. Et je vais faire le lien aussi avec dans mon quotidien, dans ma boîte, c'est j'aide les femmes à prendre la parole. On travaille que en non-mixité, donc la non-mixité, ça permet de libérer des paroles qui ne sont pas libérées dans d'autres circonstances. Mmh. Et donc, mes clientes deviennent... Je suis très proche d'elles. Il y a beaucoup, c'est-à-dire des copines, des amies. Mmh. Et franchement, 90% m'ont toutes dit « Mais en fait, Nina, moi non plus, j'aime pas. Ouais, c'est horrible. T'as trop raison. Mmh. Genre, fais un post là-dessus. » Et c'est elles qui m'ont dit « Fais un post là-dessus.
Okay. »
Et donc, si tu veux, je suis dans un contexte qui fait que à la fois je lis des paroles qui ressemblent à la mienne et je suis rassurée, à la fois il y a des personnes autour de moi qui me disent mais en fait moi aussi c'est exactement la même chose, c'est juste que je flippe de le dire, vas-y fais-le pour nous. Et donc moi c'est ça, enfin après c'est mon métier aussi, c'est d'aider les femmes à prendre la parole sur leur sujet, tu vois,
ouais.
Et d'expertise, mais aussi le sujet qu'elles vivent, parce que c'est en libérant la parole, en parlant, en ouvrant ces sujets que bah, quelque part on arrêtera de maltraiter les femmes. Parce que, en fait, on est maltraité quand on a autant de femmes qui disent qu'elles vont pas bien, que ça, c'est pas cool, etc. Bah, en fait, ça veut dire que la société ne leur apporte pas l'aide nécessaire dont elles ont besoin.
Bien sûr, ouais.
Et parce que probablement, bah, au même titre que moi, je le disais pas assez fort.
Ouais.
Je vais mal. Bah, en fait, si on commence toutes à dire, ok, les gars, là, il y a un problème et il faut qu'on fasse quelque chose, là, probablement, quelque chose changera plus.
Mais je vois qu'il y a toujours aussi une. Chaque femme qui parle de ce sujet précise tout le temps qu'elle aime son enfant. Mmh. Tu l'as fait d'ailleurs toi aussi.
Tout à fait. Excellent.
Ouais, on n'est pas encore sur une liberté de parole totale parce qu'il faut quand même se justifier et dire bon, vous inquiétez pas, on ne sait pas à qui d'ailleurs, on se justifie comme ça, j'aime mon enfant, même si c'est dur pour moi.
Alors je l'ai précisé parce que je pense qu'il y a un autre sujet qui est regretter le regret de maternelle et le fait de ne pas aimer son enfant.
Ouais.
Alors, t'as raison, quand on parle de ce genre de sujet, et je me suis astreinte à essayer de pas trop le faire, parce qu'en fait, on parle d'un truc, c'est violent, et après, on se sent obligé de dire « Non, mais j'aime quand même mon enfant. » Tu vois, comme si il fallait modérer la violence de ce promo, tu vois. Et tu as totalement raison dans ce que tu dis. Je pense aussi... Mais par contre, je pense aussi que j'ai pas le problème de pas aimer mon enfant. Enfin, le problème. J'ai pas ça. Moi, j'aime mon enfant. Et donc, je pense que il y a des mères qui n'aiment pas leur enfant. Je pense que c'est encore plus tabou que le regret maternel. Enfin, tu vois, je pense que c'est encore plus tabou. Moi, c'est pas ce que je rencontre, mais je suis d'accord avec toi que même les personnes qui en parlent, qui libèrent la parole, elles se sentent quand même obligées de dire « Oui, mais vous inquiétez pas, j'ai mon enfant. »
Et alors, pour en revenir à ton travail, à ces femmes que tu formes, est-ce qu'il y a beaucoup de mamans, de jeunes mamans, qui switchent complètement de carrière?
Alors, il y a beaucoup de mamans parce que c'est des femmes qui sont globalement entre 25 et 45, 50.
Ouais.
Tu vois, 25 et 45, je dirais. Donc, il y a plein de profils différents et c'est ça qui est génial, ça qui fait que c'est super riche. Il y en a beaucoup qui sont jeunes mamans. Et il y en a beaucoup qui ont cet enjeu de trouver un équilibre entre leur vie pro et leur vie perso.
Mmh.
Et ça, c'est quand même hyper dur. Je pense que c'est la ressource dont les mamans manquent le plus, c'est le temps. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui switchent? Oui, il y en a qui passent d'une vie à une autre. Il y en a qui ne sont pas du tout en train de switcher, mais qui, en fait, dans la communauté, dans mon écosystème, il y a beaucoup d'entrepreneuses. Mmh. Donc il y en a qui viennent, elles ne sont pas entrepreneuses, mais elles viennent voir comment ça se passe avec les entrepreneuses, elles viennent voir comment sont les entrepreneuses. Mmh. Et donc, du coup, au final, elles finissent par switcher.
Ouais.
Donc, tu vois, ça prend plus ou moins du temps. Là, il y en a une qui était dans la promo 2 du bootcamp, qui est en train de quitter sa boîte. Donc même celles qui ne sont pas en train de switcher, elles finissent par le faire.
Ouais. Celles qui deviennent mères, elles se rendent compte quand tu es dans le salariat, par exemple, tu as moins de liberté qu'on peut penser, mais finalement, ce n'est pas toujours le cas quand tu es entrepreneur. Mais voilà, avoir plus cette gestion du temps.
Ton temps t'appartient.
Voilà, ouais. Voilà.
C'est-à-dire que ton temps t'appartient, tu es obligé peut-être de te pointer entre 9h et 18h dans une pièce. C'est un des premiers posts LinkedIn que j'avais fait qui a été parti hyper viral, mais j'avais fait un post pour dire, c'était avant le Covid, qui disait, mais je comprends pas cette idée d'enfermer des gens à un endroit précis, ouais. Au même moment. C'est un peu bizarre quand même. Donc c'était avant qu'il y ait tout le télétravail du Covid, etc. Donc là, disons que je sais pas si au travers de l'entrepreneuriat tu gagnes du temps, parce que au final je travaille quand même vraiment beaucoup. Enfin, ou tu peux moins travailler, mais je crois pas que ce soit une question de quantité de travail, comme tu le dis, mais je pense que c'est plus une question de comment tu te gères et tu gères ton temps.
Ouais. Maintenant que tu sors un petit peu de ce tourbillon, quoi, un conseil que tu as lu qui t'a aidé pour une femme qui traverserait la même chose, hormis le ça va passer, même si.
Non, justement, ça va pas passer. le conseil, c'est ça va pas passer. C'est même si tu penses que c'est normal, même si tout le monde te dit que c'est normal de souffrir, même si tu lis que c'est normal de souffrir, même si tes gens te disent ah, c'est dur, ce n'est pas normal de souffrir. C'est comme quand on a ses règles, ce n'est pas normal de se tordre de douleur quand on a ses règles, c'est juste qu'on nous a appris à accepter cette souffrance. Donc, première chose, ça ne va pas passer, fais quelque chose. Sollicite des gens autour de toi. Donc, plusieurs choses, plusieurs conseils. Premièrement, va voir sur internet. Des personnes qui parlent de ce sujet-là. Moi, c'est un des sujets que j'aborde. Il y a plein d'autres choses et plein d'autres personnes qui le font. Donc, écoute un maximum la parole d'autres femmes qui parlent de ça et pas celles qui vont dire « Ah ouais, ok, en fait, moi j'ai accouché il y a 2 mois et puis en fait, maintenant, j'ai un ventre hyper plat, tu vois. Ouais. » Ça, c'est vraiment toxique. Mais essayer de reconnecter avec des paroles qui ressemblent à la tienne. Ça, c'est déjà, ça va te soulager en termes de culpabilité. Tu vas voir que c'est normal, en fait, ce que tu vis, c'est tout à fait normal. Premièrement. Deuxièmement, une fois que t'as intégré ça, parle-en à ton entourage. Essaie de solliciter des personnes qui peuvent t'aider. Mais c'est pas genre, ah, c'est un peu dur. C'est genre, je t'assois sur une chaise et je te dis, là, je suis en train de craquer, genre, vraiment, faut que tu m'aides, sinon je vais péter un câble.
Ouais.
Que ce soit ton mec, que ce soit ta mère, que ce soit ta sœur, que ce soit ton ami, on s'en fout. Vraiment. Pose les fesses sur une chaise, mets-toi en face d'eux et crie-leur. Mmh. Parce que bah, les gens sont dans leur réalité, c'est pas qu'ils t'aiment pas, c'est pas qu'ils traitent pas d'attention à toi, c'est juste qu'ils sont dans leur réalité et ce que toi t'as l'impression de dire, c'est probablement beaucoup plus dilué que ce qu'eux ils entendent. Et parce que nous, les femmes, on nous a éduquées aussi, alors c'est un sujet que je traite beaucoup avec mes apprenantes, mais on nous a éduqués à pas utiliser la violence, à pas parler fort, à pas dire les choses, à être plutôt douce.
Ouais.
Et en fait, là, c'est le moment où il faut les secouer. Mmh. Et donc, il faut leur dire. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil, c'est de se faire accompagner du mieux possible, dans la mesure du possible. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, ben, il n'y a pas assez d'aides qui sont dédiées aux femmes. Mais si tu peux, si tu as les moyens, si tu as la possibilité d'avoir de la prise en charge, prends-toi une nounou en plus, vraiment ça aide. Et ça veut pas dire que tu t'occupes pas de ton enfant, ça veut dire que tu peux être là pendant que la nounou est là. Et ça, c'est genre dans ton cerveau, tu peux être là pendant que la nounou est là et ça t'allège la charge. Peut-être que toi tu vas donner les biberons, mais qu'elle, elle va changer ton bébé, elle va t'aider à faire un biberon, elle va t'aider à faire à manger, etc. Donc tu vois, ça va te soulager et ça veut pas dire que tu abandonnes ton enfant. Et deuxième chose, fais-toi aider toi par un professionnel. Il y a des psys, va voir un psy pour enfant, pour Léon, pour son angoisse de séparation là. Mais en fait, probablement que le psy va surtout nous traiter nous, parents, tu vois. Donc voilà, vraiment, c'est ces trois conseils que je donnerais. Et surtout, c'est légitime ce que tu ressens, c'est pas normal malheureusement, mais ça arrive à plein de femmes et t'es pas seule.
Ouais.
Et ne reste pas seule.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
J'ai plus le temps. j'ai plus le temps dans ma vie, vraiment, j'ai plus le temps. Au niveau du travail, je pense que c'est mes priorités qui ont changé. Je mets des priorités beaucoup plus importantes. C'est 80-20, quoi. C'est 20% d'actions qui vont apporter 80% des résultats. Quels sont les 20% d'actions ? Deuxièmement, j'ai appris à m'entourer de personnes qui font mon travail mieux que moi.
Ouais.
Et donc, je lâche prise sur ce que je fais. Là, d'ailleurs, on la remercie. C'est Julia qui s'occupe de nous pendant ce podcast.
Ouais.
Et je la remercie parce que c'est grâce à elle que, voilà, qu'on est là et que je peux bah, aussi faire des moments comme ça d'enregistrement.
Mmh.
Et pareil, tu vois, dans mon business, bah, là aujourd'hui, je vais avoir une associée, donc elle va s'occuper d'une partie de ma boîte. Enfin, voilà, vraiment, c'est pas de ma boîte. Voilà, tu crées ton village, il n'est pas que personnel, en fait, ouais. Il est aussi professionnel, donc tu lâches prise là-dessus. Ça veut pas dire que t'es moins bonne, ça veut pas dire que voilà, ça veut juste dire que, en fait, tu leur laisses vraiment la responsabilité. Ça a quand même pas changé. La troisième chose que ça a changé, je pense que ça m'a donné envie de faire des choses qui sont plus grandes. Je pense que je me dis, bon, bah, en fait, c'est con, mais quand je fais un truc, je me dis, ah, bah, qu'est-ce que Léon, tu vas l'acheter un livre? Je me dis, bah, c'est quand il sera grand, il pourra le livre, sera le livre de sa maman. Bon, probablement qu'il n'y aura rien à faire du copywriting pour entrepreneur indépendant. Il n'aura probablement rien à faire de.
Ouais, ce sera le livre de sa maman.
Ça se trouve, il voudra pas du tout écrire, il voudra pas du tout être entrepreneur. Donc ouais, il va me dire, ok, maman, t'es sympa. Mais tu vois, il y a ce côté un peu, ouais, ça donne une personne dont t'as envie qu'il soit fier et. Voilà, et dernière chose, ça te remet beaucoup en question, en fait, dans ta patience, dans ta. Enfin, ça t'oblige à travailler sur toi, quoi. Ça ouais. t'oblige à grandir émotionnellement. Ouais, tu peux pas laisser les sujets sous le tapis parce que j'ai l'impression que quand t'as un enfant, en fait, tous tes sujets que t'as pas résolus dans ta vie, ils reprennent le dessus.
Mmh. On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Ouais.
C'est quoi pour toi être une maman parisienne?
C'est être une maman qui est dans une vie qui va à 3000 à l'heure. Qui a énormément de choses à faire parce que sa carrière est importante pour elle. C'est probablement pour ça qu'elle est à Paris, parce qu'elle sait que c'est un épicentre où il se passe plein de choses. Donc elle a 3000 choses à faire. Elle est ambitieuse pour son travail, elle a envie d'y arriver, elle a envie d'accomplir des choses, que ce soit à son compte, que ce soit en tant que salariée. Elle a envie de faire des grandes choses et elle court partout, quoi. Et elle a New York.
Mais quel est ton endroit kids friendly préféré à Paris?
Très bonne question. Franchement, c'est surtout Thibaut, en fait, qui fait les activités avec Léon. Hein. Moi, ce que j'aime bien me balader avec lui en poussette, tu vois. Genre, ça c'est sympa. Et sinon, la dernière fois, on l'a emmené à l'atelier des lumières. Je sais pas si c'est très top pour un enfant, parce que tu sais, t'as plein de rétroprojecteurs un peu partout. Il y a plein d'écrans, on te dit ne mets pas ton enfant devant un écran, et toi t'es là, genre, avec 3000 écrans partout, avec des rétroprojecteurs. Mais il a adoré, genre, ouais. Il était comme ça, avec des grands yeux. Enfin, tu vois, c'était un moment top, donc.
Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille?
Alors, prévu en famille, il y a les vacances. On va se faire 10 jours de vacances. En Espagne avec Thibaut Lyon et le Kids Club, qui est quand même super important. On va se le dire. Donc il y a le bébé peut être gardé la journée, donc il nous permet nous aussi d'être un petit peu en vacances. Ça c'est cool. Et pour moi, Nina, très très bonne question, excellente question. Bon, pour le moment là, je rien.
Ton livre?
Ouais, ce que j'allais dire. Mon livre, je pense que c'est un bel accomplissement et je suis hyper contente, et le fait de prendre du temps pour en parler, pour le faire connaître, voilà, compte tenu du travail que c'était derrière et à quel point je pense que ça peut aider plein de personnes, ouais, enfin vraiment, ça c'est, tu vois, c'est pour moi, enfin pour mon développement, mon épanouissement personnel, tu vois.
Merci beaucoup Nina.
Merci à toi, c'était super.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.